Shalom, peuple de Dieu. Je suis heureuse parce que je suis là aujourd'hui. Je devrais être là l'année passée, mais Dieu a voulu que je sois là cette année. Et chez Dieu, il n'y a pas d'hasard. On m'a demandé de parler de l'évangile de Marc, mais plus précisément de la partie qui va du chapitre 8 au chapitre 10. Et quand on m'a demandé de parler de cette partie, ce qui est venu à moi, premièrement, c'était le service, le terme du service. Mais quand j'ai continué à prier, ce thème résistait beaucoup et je ne sais pas pourquoi. Mais ce qui est venu à mon esprit, et j'étais là, le dimanche passé, c'était l'humilité. Et je sais que Dieu ne donne jamais un thème au hasard. Il y a toujours un objectif. Et dans ces chapitres, dans cette partie, qui va du chapitre 8 au chapitre 10, qui est la partie centrale de l'évangile de Marc, il se focalise sur la gloire du Fils de Dieu. La gloire du Fils de Dieu, et non pas selon la pensée humaine, mais selon la pensée de Dieu. Jésus va être élevé comme Fils de Dieu, c'est à la croix, par les souffrances. Alors que Pierre passait à autre chose, mais il y a une autre vision de Dieu, de nous parler de la gloire de Dieu. Et encore dans ce chapitre, c'est dans ce chapitre que Jésus enseigne ses disciples sur l'humilité. Il parle de l'humilité, dans cette partie, à Marc chapitre 9, verset 33 jusqu'au verset 37, où il donne l'image de l'enfant. Il dit à ses disciples, parce qu'il s'est querellé pour savoir qui va être le plus grand au milieu d'eux. Mais il appelle un enfant, il le met au centre. Il les évite d'être et de les suivre comme l'enfant, comme tout enfant. Le deuxième texte où il parle de l'humilité, c'est Marc chapitre 10, verset 42 jusqu'au verset 45. Là, il réagit à la demande de Jacques et de Jean, qui ont dit à Jésus qu'ils veulent être l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Alors, pour ce dimanche, nous avons choisi le texte de Marc 10, chapitre 46 jusqu'au chapitre 10, verset 46 jusqu'au verset 52, qui parle de la guérison de Bartimée. Nous avons choisi ce texte parce que il est pour nous comme une charnière, parce que le dimanche passé, on nous a parlé de la puissance de la guérison, de croire à la puissance de Dieu, les miracles dans l'évangile. Mais on nous a annoncé aussi que nous commençons l'opération Jéricho à Carouge. Et dans ce texte, on nous parle aussi de Jéricho. La guérison de Bartimée va se passer à Jéricho. C'est pour cela que j'ai pensé que nous pouvons parler de ce texte aujourd'hui. Et nous allons lire ce texte. Je vous invite de lire la parole de Dieu dans Marc, chapitre 10, verset 46 jusqu'au verset 52, je vais lire au nom de Jésus. Ils arrivent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin, en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup les remprouvèrent pour qu'ils se taisent, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelle-le !» On l'appelle l'aveugle, on lui dit, « Confiance, lève-toi !» Il t'appelle. Rejetant son manteau, il se leva de bon et vint vers Jésus. S'adressa à lui, Jésus dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Rabouni, que je retrouve la vie. » Jésus dit, « Ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vie. ils suivaient Jésus sur les chemins, sur la parole du Seigneur. À travers ce texte, nous avons voulu parler du thème « L'humilité comme chemin qui mène vers la gloire de Dieu ». L'humilité comme chemin qui mène vers la gloire de Dieu. Et d'entrée, nous allons d'abord définir l'humilité. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est le fait de reconnaître que je ne suis rien et que je ne peux rien sans quelqu'un d'autre, a priori sans Dieu. Je ne suis rien ou je ne peux rien sans quelqu'un d'autre. Et c'est ça l'humilité. Et l'image qui était là, quand nous avons parlé du thème, on nous montre, et il est grand, il est bien habillé, mais le chemin, ce n'est pas en haut qu'il doit passer, n'est-ce pas? Mais il doit passer en bas. Il faut que cette image reste. L'humilité, nous venons de définir que l'humilité, nous pouvons continuer. Et la Bible, en nous parlant de l'humilité, il nous donne les exemples des hommes et des femmes humbles dans la Bible. Il y a Moïse. Moïse, à qui Dieu demande d'aller libérer le peuple d'Israël devant Pharaon, mais il s'est dit qu'il ne sait pas parler. Alors qu'il pouvait se dire qu'il a de l'expérience dans la maison royale. Mais il a reconnu sa faiblesse. Le deuxième exemple, c'est Jérémie. Alors que Dieu vient de lui donner l'autorité sur toutes les nations et sur tous les royaumes, il reconnaît qu'il est petit, qu'il est un moins jeune. Il y a aussi l'exemple d'Esther. L'Esther, quand il demande la faveur d'entrer auprès du roi, il n'a pas compté sur sa beauté, parce que sa beauté attirait beaucoup les rois. Mais il a compté sur la prière, et plus particulièrement la prière des autres. Il a dit à Mordoché d'aller réunir les peuples juifs et de prier pour elle. Le troisième, quatrième exemple, c'est Nicodème. Nicodème, il était grand, il était un docteur de la loi. Mais il vient se ressourcer auprès de Jésus, un campagnard qui vient de Galilée, qui ne connaît presque rien devant Nicodème. Mais il s'est abaissé, alors que lui, il était un docteur. Je peux dire un docteur de théologie à théologie. Mais qui vient se ressourcer auprès de quelqu'un qui n'avait presque pas étudié. Ce sont des exemples de l'humilité dans la Bible. Alors, qu'est-ce que la gloire? La gloire, dans la langue hébraïque, la gloire, le mot qui traduit la gloire, c'est le mot kabod. Kabod qui signifie être lourd, qui signifie pesé. Être lourd, être très important. C'est par ces mots qu'on traduit, c'est ça le sens de kabod dans la langue hébraïque. Ça veut dire que la gloire, c'est ce qui donne à quelqu'un une considération dans la société, dans la famille, dans l'église. C'est ça la gloire. Ça peut être sa richesse, ou son pouvoir, ou ses études. Donc reconnaître la gloire de quelqu'un, c'est reconnaître son importance dans sa vie. Alors, quelle est la gloire de Dieu? Parce que nous voulons parler de l'humilité comme le chemin qui nous conduit vers la gloire de Dieu. Quelle est la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est tout ce qui rend Dieu important dans notre vie. Ce qui les rend importants. Il est le tout-puissant, n'est-ce pas? Alors que nous sommes le plus faibles. Il est le Dieu qui est très saint, alors que nous sommes le pécheur. Il est éternel, alors que nous sommes limités. Et plus particulièrement, dans le Nouveau Testament, la gloire de Dieu se révèle dans le fait d'avoir cédé, dans le fait d'être capable d'avoir cédé la vie aux humains. Je vais m'expliquer. en Jésus-Christ. Je reprends. Dans le Nouveau Testament, c'est Jean qui le dit. C'est lui qui est le seul capable de céder sa vie et donner cette vie à l'humain à travers Jésus-Christ. Nous venons de dire que la gloire, c'est ce qui rend important quelqu'un dans notre vie. Et Dieu est le plus important dans notre vie, c'est parce qu'il est le seul capable de nous céder sa vie. De nous céder ce qui lui est de plus cher, qui est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est le seul plus important dans notre vie. Parce qu'il est le seul capable de nous donner sa propre vie. Et donc, à travers Jésus-Christ, nous devenons les enfants de Dieu. Nous devenons les co-héritiers avec Jésus. À travers Jésus-Christ, nous accédons à la vie de Dieu. Ah, bref, la gloire de Dieu, je reprends, c'est cette capacité de sauver l'homme et de faire de celui-ci ou de celui-là son fils ou sa fille. Cette capacité de sauver, de tirer l'homme et de rendre cet homme sa fille ou son fils. C'est ça, la gloire de Dieu. C'est à cela qu'il est le seul qui soit important pour nous. Alors, en entrant dans l'étude plus profonde de notre texte, nous allons voir maintenant comment surtout les gens veulent entrer dans cette gloire de Dieu. Et dans ce chapitre 10, Marc nous présente trois catégories. Il y a d'abord la première catégorie des gens, c'est l'homme riche qui est ici, qui a voulu aussi entrer dans la vie de Dieu, dans la gloire de Dieu. Il a posé une bonne question. Il a dit, nous sommes au chapitre 10, j'ai lu le verset 17, « Comme il se mettait en route, quelqu'un vit Akoura et se jeta à genoux devant lui. Il lui demandait, « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle à partage ?» Il a posé une bonne question. Et Jésus lui répond en lui disant qu'il faut qu'il respecte les commandements. Et quand nous analysons les commandements qu'il a donnés ici, ce sont les commandements qui sont centrés sur le respect de l'autre. Il n'a pas parlé de Dieu, mais il parle de l'autre. Comme si pour entrer dans la vie, il faut respecter l'autre. Et il a dit, j'ai réussi tout ça. Mais il a continué, Jésus a dit, il y a une chose qui te manque, partager tes biens avec les pauvres. La deuxième catégorie, ce sont les fils de Zébédée, il y a Jacques et Jean. Il y a Jacques et Jean qui ont demandé à Jésus qu'ils veulent entrer aussi dans la gloire, mais qui ont demandé une faveur auprès de Jésus. Il faut que l'un soit à sa droite et l'autre soit à sa gauche. Et Jésus leur pose une question. Est-ce que vous êtes aussi prêts de mourir avec moi? Ils ont dit oui. Effectivement, quand nous voyons l'histoire de Jean, il est mort, il a été décapité. Il a subi la persécution. Ça veut dire quoi? Ce texte veut nous dire que Jésus veut interpeller ses deux disciples. Parce que peut-être ils croyaient qu'ils pensaient que le fait d'avoir souffert beaucoup pour l'œuvre de Dieu leur donne le droit ou le privilège d'avoir aussi une place d'honneur dans le royaume de Dieu. Souvent, nous pensons toujours que le fait que j'ai souffert beaucoup pour l'œuvre de Dieu, ça me donne le privilège ou le droit ou les intérêts plus particulier, plus que les autres dans le royaume de Dieu. Ça fait toujours mal de souffrir pour quelque chose, surtout pour l'œuvre de Dieu, et de voir que ce sont les autres qui viennent bénéficier, n'est-ce pas, du fruit de ses souffrances. Et dans le royaume de Dieu, on peut être tenté comme Jean et de dire, comme moi j'ai souffert, n'est-ce pas, plus que les autres, j'étais persécuté. Cela me donne le droit aussi dans le royaume d'avoir une place d'honneur. Mais Dieu dit, cela n'est pas donné à moi, c'est dans la souveraineté de Dieu. C'est lui, Dieu, il est souverain. Je peux souffrir pour son œuvre, mais bon, je me retrouve, peut-être que ce sont les autres qui n'ont pas souffert comme moi, n'est-ce pas, à qui Dieu une place d'honneur, peut-être, dans l'Église, que moi. Alléluia. Alors, la troisième catégorie, et nous allons finir par, c'est celui de Bartimée. Dans les textes que nous venons de lire, on nous dit qu'ils sont à Jéricho. Nous allons parler de Jéricho. Jéricho, il est très symbolique dans la Bible. Il se trouve au désert, entre le Jourdain et Jérusalem. Et Jéricho signifie ville des palmiers. Ça signifie aussi parfum. Et dans la Bible, les palmiers symbolisent la vie, les repos. C'est là où il y a de l'eau dans les déserts. Et donc, du point de vue géographique, Jéricho symbolise dans les déserts les lieux de la vie, du repos. Et dans la tradition biblique, Jéricho évoque l'entrée à terre promise. Et donc, ce n'est pas pour rien que Marc dit qu'ils arrivent à Jéricho. Mais il y a quelque chose qui nous a tiqué quand nous avons lu ce passage ici. C'est à sorte, ce n'est pas un endroit à Jéricho que l'aveugle va être guéri, mais c'est à sortant de Jéricho. On dit, comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Ce n'est pas à Jéricho, là où on pouvait, selon notre imagination, nous pourrions vouloir que la scène se passe à Jéricho, vu la symbolique de Jéricho dans la Bible. Mais la guérison de Bartimée va se passer en dehors de Jéricho. Et quand nous lisons aussi les textes sur la guérison de l'aveugle anonyme en Marc 8, Jésus aussi, quand il a opéré la guérison, il a amené l'aveugle hors du village. Ce n'est pas dans le village, donc à l'intérieur du village, que la guérison s'est passée, mais en dehors du village. Ça signifie quoi dans ces textes? Souvent, hors du village, dans l'évangile de Marc, symbolise souvent le désert. Et le désert est présenté paradoxalement dans l'évangile de Marc. C'est le lieu du repos. C'est le lieu de la vie. Quand Jésus est baptisé, il va au désert. Marc dit, il est au désert avec les bêtes, mais avec aussi les anges. Le désert, c'est en même temps le lieu des bêtes, mais en même temps le lieu des anges. Quand Jésus veut prier, il se retire toujours, il va au désert. Après la mission de disciples, il dit aux disciples d'aller se reposer dans le désert. Et c'est au désert qu'il va nourrir 5000, alors qu'au désert, il n'y a pas de vie. Mais c'est au désert qu'il va nourrir 5000 hommes avec 5000 pains. Ça veut dire qu'il y a vraiment une théologie, essence vraiment, qui est autour du désert dans l'évangile de Marc. Alors, quand Marc dit qu'il a guéri les disciples en dehors du village, donc presque au désert, il y a une leçon à tirer, c'est que souvent, nos bénédictions ou notre salut ne nous vient pas souvent des lieux ou des personnes sur lesquelles nous comptons beaucoup. Dieu peut utiliser souvent des personnes qui n'ont pas aussi n'ont pas aussi l'espoir de vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu pour nous sauver, il peut utiliser non pas des personnes qui sont fortes, je m'excuse, mais des personnes faibles. Il peut utiliser, alors que moi, peut-être même des personnes malades, n'est-ce pas, qui n'ont pas d'espoir de vie. Dieu peut les utiliser. Dieu peut nous bénir, non pas dans des endroits où nous croyons que c'est là il y a notre bénédiction, mais dans des endroits où nous pensons que ce sont de milliers, où il n'y a pas vraiment de vie, dans les déserts. La deuxième chose, nous voulons parler aussi de l'identité de Bartimée. J'ai donné ces deux images pour vouloir parler de l'identité de Bartimée. Bartimée, nous allons parler d'abord de son nom. Bartimée, son nom est composé de Bar, qui est un mot araméen qui signifie fils, et de Timé, qui est un mot grec qui signifie honneur. Alors, Bartimée signifie fils d'honneur. Mais paradoxalement, on le présente ici comme un mendiant. Et fils d'honneur, et fils de gloire, pauvre. Et j'ai montré ces deux images en voulant montrer qu'un humain avec un grand nom, comme Bartimée, mais il peut être pauvre spirituellement. On peut avoir bien sûr un grand nom qui vient de ses origines, n'est-ce pas? Ou bien un grand titre, ou bien des études, ou bien on peut être très riche. Ce sont des noms d'honneur, mais être pauvre spirituellement. Et c'est le cas ici de Bartimée. Il a un grand nom, c'est un fils d'honneur, mais il est pauvre. Spirituellement, il est pauvre. Mais qu'est-ce qui fait ici la grandeur de Bartimée? Ce qui fait ici la grandeur de Bartimée, c'est le fait de reconnaître qu'il est faible. C'est un grand cœur de prendre conscience de sa faiblesse, de ses limites. C'est ça la grandeur de Bartimée ici. Mais le fait de reconnaître ou de prendre la conscience de sa faiblesse ne suffit pas. Il y a un prix aussi pour accéder à sa gloire. Il y a des prix à payer. Et nous voulons terminer par ça. Il y a des prix à payer. Il ne suffit pas de reconnaître son état. Il y a aussi les prix pour accéder à sa gloire. Le premier prix, c'est de reconnaître qu'il n'y a que Jésus qui est son seul sauveur. Il a reconnu, Bartimée, le premier prix qu'il a payé, le prix de l'humilité. C'est de reconnaître qu'il ne peut pas se sauver et la seule personne qui peut le sauver, c'est Jésus. C'est le premier prix à payer. Reconnaître qu'il n'y a que Jésus qui peut me sauver. Le deuxième prix que Bartimée a payé, le prix de l'humilité, c'est de crier. Il a crié. C'est honteux de crier. C'est faible de crier. C'est un peu ridicule de crier. Si quelqu'un se met ici à crier, c'est tout le monde qui va le regarder, il aura honte. Crier, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça paraît vraiment ridicule. Et encore à court, il était à court de route. Crier à court, imaginez que vous êtes ici, nous sommes en Europe, et vous vous mettez à crier à haute voix. C'est vraiment ridicule. Mais c'est un prix à payer. Le troisième prix de Bartimée, c'est faire tomber le mur. Dans la vie de Bartimée, les gens, dans ces textes, on nous dit, il y a des gens qui voulaient les faire taire pour qu'ils ne crient pas. C'est le mur comme le mur de Jéricho. Mais il a continué à crier plus fort. jusqu'à ce que sa voix dépasse la voix des gens hein, qui voulaient le faire taire. Et dans Josué, nous lisons au chapitre 6, verset 10, qu'il n'y a que des cris qui ont fait tomber le mur de Jéricho. Et donc, nous devons arriver aussi à faire tomber les murs dans notre vie, à criant, plus fort, à criant. Troisièmement, répondre à l'appel. Les mêmes personnes qui faisaient taire en Bartimée, ce sont les mêmes personnes que Jésus envoie et dit allez appeler Bartimée. Mais je vais jouer ici et je quelque chose pour nous faire comprendre si ça signifie quoi ici. Vous les connaissez? Alors je vous demande de vous mettre par terre. Asseyez-vous par terre. Il ne crie pas. Et je lui demande de se taire. Mais je viens de l'humilier, n'est-ce pas? Je viens de l'humilier. C'est l'humiliation. Mais en même temps, c'est toujours moi qui vais les faire lever. Vous pouvez. Parfois, Dieu peut utiliser les mêmes personnes qui nous ont humiliés pour encore nous élever, pour nous enseigner des choses. La première chose, le pardon. Parce que si je ne les pardonne pas, je risque de refuser sa main. Quand cette même personne va me tendre la main, je risque de refuser. Alors que c'est le seul chemin encore pour mon élévation. Si Bartimée n'aurait pas pardonné à ces gens, il pouvait refuser l'appel. Parce qu'il pouvait se dire, comment Dieu peut envoyer la même personne qui m'a humilié pour m'appeler? La deuxième chose, c'est pour nous apprendre encore l'humilité. Ce n'est pas facile. La personne qui vous a humilié, que ce soit la même personne que Dieu utilise pour vous élever. Il faut un grand cœur pour accepter cela. Souvent, on peut dire non, on peut refuser de donner la main. Ou bien, quand la personne dit, maintenant, tu peux parler, n'est-ce pas? Tu voulais me parler, mais alors tu peux parler. Tu peux dire, je ne parle plus. Il y a l'autre prix à payer, c'est abandonner tout autre espoir de vie que Jésus. Cela nous est donné ici par le fait que Bartimée, quand il a été appelé, il a fait tomber, il a abandonné son manteau. Le manteau, c'est cette richesse de Bartimée, c'est tout ce qu'il avait pour vivre sur ce chemin. C'est manteau qui symbolisait peut-être pour lui, donc qui était sa couverture quand il avait froid. Sa toile quand il avait le soleil. Mais il a abandonné. Ça veut dire quand il a abandonné son manteau, il a abandonné en même temps et sa richesse, n'est-ce pas, et sa pauvreté pour se mettre à la suite de Jésus. Et quand Dieu nous appelle, nous devons être en mesure d'abandonner tout. Souvent, donc, je voulais dire ceci. La première chose que Bartimée a fait, c'était de faire tomber les murs, les gens. Mais la deuxième chose, il a fallu qu'il fasse tomber aussi le mur qui est à lui, son être. Souvent, c'est facile de faire tomber les autres, n'est-ce pas? Mais difficile de faire tomber son orgueil. C'est facile de voir que ce sont les autres qui sont peut-être le mur pour moi, mais ne pas reconnaître le mur aussi dans sa vie, qui peut être le manteau ici. Et donc, il faut reconnaître aussi ce qui est le mur dans ma vie et le faire tomber. Afin de dire son besoin à Dieu. Quand il est arrivé auprès de Jésus, il a dit, quand Jésus lui a posé la question, il a dit, « Rabbi, que je retrouve la vue. » Jésus lui a dit, Que veux-tu que je fasse pour toi ? L'aveugle lui répondit : Rabbi, que je retrouve la vie. C'est la prière. Nous devons apprendre aussi à prier. Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît ma situation. Dieu connaît votre situation. Il est capable de résoudre votre problème sans la prière, n'est-ce pas ? Parce qu'il connaît votre situation. Mais la seule chose qu'il demande, qu'il veut, que moi-même je m'exprime, que je prie. Parce que prier, c'est aussi un signe de l'humilité. Je vais terminer par un témoignage pour parler de l'humilité. Dans notre université à Goma, je sais que les collègues qui sont là, ils vont reconnaître la personne. Nous prions avec une maman. Elle est servante. Elle est fervente aussi à l'église. Et son mari aussi, il est chrétien. C'est un professeur à l'université. Il est grand. Il est aussi chrétien. Il prie beaucoup. Et il est fervent. Mais comme Bartimée, il est aveugle. Il n'est pas aveugle spirituellement. C'est un aveugle vraiment. Il ne voit pas. Alors, un jour, Dieu m'envoie un messager. Il était venu de Bukavu. Moi, je suis de Goma, mais il était venu de Bukavu pour venir me donner un message. Et quand il m'a donné le message, il m'a dit qu'il me pose la question qu'on lui dit que j'ai prié avec une maman dont son mari est aveugle. J'ai dit oui. Il m'a dit, Dieu m'a dit que je peux aller prier pour ce professeur, mais il me montre en même temps qu'il est orgueilleux et que si j'y vais, il risque de refuser que je prie pour lui parce qu'il disait qu'il pourra prier pour l'eau et le monsieur pourra se laver cette eau, le visage, et il aurait la guérison. Il m'a dit, alors si vous pouvez aller le voir et lui dire ce message. Je suis partie, j'ai parlé d'abord à son épouse. Son épouse, c'était le lendemain que j'ai vu son épouse. Son épouse m'a dit, je m'étonne que le même message nous soit arrivé il y a 3 jours. Il y a une autre servante de Bounia que nous ne connaissons pas, qui nous a appelé en disant que si mon mari accepte qu'on prie pour l'eau et qu'il se lave cette eau, il sera guéri. Mais mon mari a refusé. Il me dit, alors, comme ce jour-là, quand je suis partie le voir, son mari était à prière, à jeûne. Il priait pendant 3 jours. Il me dit, comme il est à prière, je crois que cette fois-ci, il va écouter, il va obéir. Je suis partie, j'arrive là, je lui donne le message. Il me dit, il me répond, moi aussi je suis à prière. Je prie et je veux que Dieu me parle moi-même. L'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel peut nous faire passer loin de nos bénédictions. Il prie. Il priait, et même il priait ces jours-là. Mais bon, comme il a attendu que c'est quelqu'un qui est venu de Bukavu, qui n'avait même pas étudié, c'était un jeune garçon, il dit, bon, j'ai prié et que ce Dieu-là me parle. L'orgueil spirituel, souvent, on peut avoir un grand nom, chrétien, n'est-ce pas? Serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Mais cet orgueil spirituel peut nous amener loin de Dieu. Nous allons prier, au lieu de nous parler, que nous allons prier, nous allons entrer dans l'opération Jéricho, n'est-ce pas? Ça paraît bizarre, n'est-ce pas? Contourner cette fois une maison. Je parle d'une maison parce que, aux yeux de ceux qui vont nous voir, ce n'est pas un temple, c'est une maison. Ça paraît fou, n'est-ce pas? Ça paraît fou. C'est ridicule quand les gens vont attendre que les chrétiens de Carouge contournent cette fois une maison. C'est vraiment ridicule. Et les gens peuvent se dire, mais je peux prier chez moi et Dieu va écouter, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas prier chez nous et que Dieu puisse écouter? Pourquoi seulement aller contourner? C'est très bas, n'est-ce pas? C'est très bas. Mais aussi quand Dieu avait guéri Naaman, n'est-ce pas? Naaman, vous connaissez Naaman. On a dit à Naaman de se baigner 7 fois. 7 fois, se baigner. Première fois, il quitte dans l'eau. Il est encore malade, n'est-ce pas? Deuxième fois, encore il voit son corps, il est toujours malade. Troisième fois, quatrième fois, si c'était vous, cinquième fois, sixième fois, septième fois. On peut se dire, Dieu n'écoute pas, n'est-ce pas? Quand on arrive à la troisième fois, on peut dire, Dieu n'écoute pas. Il aurait déjà écouté. À la cinquième fois, il aurait déjà écouté. À la sixième fois, il aurait déjà écouté. Mais l'humilité, il n'y a que l'humilité qui peut nous amener à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.